Pendant le temps de prière et pendant le temps de fin de Sainte-Seine, vous avez entendu les enfants qui se faisaient entendre derrière. Je me suis dit, c'est aussi ça, une famille. Hein. Une famille, ça fait du bruit parfois, ça crie. Parfois, on n'est pas d'accord les uns avec les autres. Et dans l'Église aussi, ça fait partie de la famille de Dieu, comme nous l'avons chanté ce matin. Voilà, bienvenue à ceux qui ont fait le déplacement pour ce temps de culte ce matin, pendant ce temps d'été. On a pas mal souffert de la chaleur ces derniers temps, et c'est vrai que depuis hier et depuis ce matin, ça fait du bien d'avoir cette fraîcheur, n'est-ce pas? Et les bâtiments sont encore un petit peu chauds à certains endroits, ou chez nous à la maison peut-être, et d'avoir un petit peu de fraîcheur, on se sent revivre. Alors si je vous dis « Venez comme vous êtes », slogan qui vous fait penser à qui ou à quoi? À McDo, hein? Il y en a plusieurs qui suivent, hein? Puis il y en a plusieurs qui aiment bien McDo aussi, ou en tout cas qui ont retenu le coup de pub, quoi. En effet, venez comme vous êtes, c'est le slogan, comme vous le savez, depuis un certain temps déjà de McDo. Un slogan finalement qui est très simple, un slogan aussi qui est très intéressant et qui est très actuel, parce que nous sommes dans une société qui se veut cool. Aujourd'hui, on se veut cool à tous les niveaux. Mais finalement, quand on regarde un petit peu de plus près, on n'est absolument pas cool. On n'est pas cool du tout. On est une société qui est bien coincée ou en coincée sur de nombreux aspects. Vous avez toutes sortes de codes qui nous sont imposés, de règles qui sont là, qui ne sont pas forcément dites, mais qui font partie de l'esprit. Et puis finalement, c'est une société, parfois, on se retrouve un petit peu coincé, voire même guindé. Et c'est pour ça qu'il y a ce besoin dans notre société de plus en plus de se lâcher ou d'être un petit peu plus cool. Et c'est pour cela que McDo a pris le contre-pied en disant au travers de ce slogan, ne vous prenez pas la tête, que vous soyez classe ou alors que vous soyez négligé, que vous soyez soucieux ou heureux, victorieux ou défait, vous êtes les bienvenus chez McDo. Et c'est possible d'y aller comme vous êtes. Et finalement, ce slogan m'a fait du bien parce que dernièrement, avec ma veste, ma chemise et tout ça, quoi, hein, ça fait pas très jeune, ça fait pas très. Mais j'y suis allé, je me suis dit, tiens, je suis aussi le bienvenu comme ça. Je peux même y aller en costard. Hein, ils me le disent, viens comme tu es chez McDo. Et chaque fois que je vois ce slogan, ça me fait penser un petit peu, même un petit peu beaucoup, à l'Église. Et je me suis dit, mince alors, voilà un beau slogan qui convient parfaitement à l'Église. Vous le savez, nous le savons, je le sais, la réalité est souvent un petit peu plus compliquée qu'un simple slogan. Nous connaissons la théorie, ou plutôt la théorie, c'est bien comme tu es. En pratique, c'est parfois un petit peu plus difficile, et c'est ce que nous allons découvrir ensemble ce matin. Et pour ma part, j'aimerais modifier quelque peu le slogan de McDo en disant « Venez comme vous êtes », et je rajouterai « Et acceptez-vous comme vous êtes ». Ça correspond un petit peu plus encore à la mentalité biblique. En tout cas, c'est la pensée que nous allons découvrir ensemble ce matin au travers des Écritures. Et je vous invite à ouvrir la Bible dans l'Épître aux Romains au chapitre 15. Et nous allons terminer notre série qui avait été initiée il y a plusieurs mois de cela sur l'étude de l'Épître aux Romains. Il y a beaucoup de chapitres, beaucoup de sujets qui ont été touchés, et l'apôtre Paul termine à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 16 de son épître par des considérations un petit peu plus pratiques. D'abord, il a posé le fondement, si vous voulez, il a dit voilà, ça c'est la théorie, voilà ce qui se passe spirituellement, et maintenant il en vient un petit peu aux considérations pratiques pour l'Église de Rome. Je vous rappelle que l'Église de Rome, c'était une église qui comptait certainement des milliers de chrétiens. Et vous aviez deux types de chrétiens. Vous aviez d'une part des judéo-chrétiens, c'est-à-dire des juifs qui s'étaient convertis ou qui avaient reconnu en Jésus le Messie, donc qui avaient tout un arrière-plan juif, avec tout ce que cela implique, au niveau des règles et du comportement. Et puis à côté de cela, vous aviez ce qu'on appelait des païens. Et les païens, c'était qui? Eh bien, les païens, c'était tout simplement des personnes qui étaient pour certaines animistes. D'autres, c'était des gens qui adoraient le ciel, la terre, des idoles, etc. Et eux avaient un arrière-plan qui était complètement différent concernant Dieu, concernant la spiritualité. Et tous ces gens se convertissent et puis ils vivent ensemble. Et imaginez un petit peu des gens avec des arrière-plans différents qui se mettent ensemble. Parfois, ça fait des étincelles. On a beau être chrétien, On a beau avoir le Saint-Esprit, on a beau vivre les dons de l'Esprit, eh bien, quand on commence à vivre les uns et les autres, on se découvre des arrière-plans très différents, des manières d'agir, de réagir différentes, et par conséquent, ça fait des étincelles, et parfois on se frite. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, eh bien, dira, ou il aurait dit aujourd'hui, peut-être qu'il aurait aussi repris le slogan de McDo, « Venez comme vous êtes, mais acceptez-vous aussi tel que vous êtes ». C'est le message de Romains 15, et on lit à partir du verset 1. Alors Paul nous dit ceci, « Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Que chacun, verset 2, de nous, cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue, dit-il, de le faire grandir dans la foi. En effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. » Il fait référence ici aux écrits, c'est-à-dire au psaume 69, où il est question d'un homme qui a été victime d'injures. Nous avions eu l'année dernière d'ailleurs une étude là-dessus. Or, verset 4 du chapitre 15, « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, précise-t-il, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Verset 7, qui semble être vraiment le cœur de la pensée de Paul et qui résume les chapitres 14 et 15, « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. J'affirme en effet, dit-il, que Jésus-Christ est devenu le serviteur des circoncis pour prouver que Dieu est vrai en confirmant les promesses faites à leurs ancêtres. » Verset 9, « Quant aux non-juifs, ils célèbrent Dieu à cause de sa bonté, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. » Il est dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, « Louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Ésaïe dit aussi au verset 12, « Il paraîtra le rejeton d'Isaïe. Il se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui. » Et puis Paul conclut la pensée, qui comme toujours est une pensée riche, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alors, Paul parle ici de deux catégories de personnes, si vous voulez, pour résumer. Il parle d'une part des forts, et puis d'autre part, il parle ici aussi des faibles. D'ailleurs, il en parle depuis le chapitre 14. C'est au chapitre 14 qu'il va commencer à parler des faibles, à parler des forts, et qu'il va développer toute une pensée assez longue et assez riche. Et cette thématique des forts et des faibles est une thématique qu'on retrouve aussi dans une autre épître de l'apôtre Paul, que vous connaissez bien, c'est l'épître aux Corinthiens. Et particulièrement dans la première épître aux Corinthiens, les chapitres 8 à 10, où là, Paul s'adresse à l'église de Corinthe, qui était une église composée d'anciens païens, donc des gens qui avaient des mœurs très dissolues, et pour certains d'entre eux, ils avaient conservé certains mœurs dissolues, et ils avaient des idées très différentes, et là aussi, il va parler justement de ces forts et de ces faibles. Alors, de qui s'agit-il ? Un mot d'abord sur les forts. Eh bien, les forts, dans notre passage et dans d'autres passages aussi, les forts dont il est question ici, ce sont ceux qui ont pleinement embrassé l'Évangile, c'est-à-dire ceux qui ont adhéré pleinement à l'Évangile de Jésus-Christ, qui ont compris que l'Évangile, ce n'était pas quelque chose qui venait en plus ou quelque chose qui venait se rajouter, comme par exemple quand vous faites un trou dans votre jeans ou dans votre veste, vous avez la possibilité aujourd'hui de rapiécer la chose avec toutes sortes de motifs hein, qui sont parfois très sympathiques. Et eux, ils ont compris que l'Évangile, ce n'est pas une sorte de pièce rapportée, c'est-à-dire il y a le judaïsme avec ses règles, ses lois, mais que l'Évangile, c'est quelque chose de tout neuf. Que l'Évangile, c'est quelque chose de tellement neuf que ça va transformer la vie. C'est une idée, un concept tout nouveau. Alors pour nous, dire cela aujourd'hui, et en particulier ce matin, c'est une évidence. Mais essayons de nous remettre dans le contexte juif, païen, de l'époque où vous avez justement cet évangile qui apparaît. Et pensons aussi que l'évangile, eh bien, apparaît comme une bouffée d'air, un renouveau. Mettez-vous un petit peu à la place de ces juifs qui étaient contraints par toutes sortes de règles, qui non seulement devaient offrir des sacrifices, les juifs observaient, comme vous le savez, toutes sortes de jours dans l'année. Le Shabbat était un jour très important. Et pendant le jour du Shabbat, eh bien, on n'avait pas la possibilité de faire tout ce qu'on voulait. Tout ça, c'était très codifié. On pouvait seulement marcher quelques centaines de mètres. On ne pouvait pas faire ceci, on ne pouvait pas faire cela, parce que si on faisait ci ou si on faisait ça, immédiatement, on se mettait en porte-à-faux par rapport à Dieu. Il y avait toutes sortes de règles qui finalement étaient des règles très contraignantes qu'il fallait observer. Et donc, on comprend que pour les Juifs qui acceptaient pleinement cet évangile, c'était une bouffée d'air. Et ils comprenaient que l'évangile était quelque chose non pas de frustrant, qui nous restreint, mais qu'en réalité, l'évangile est quelque chose qui nous libère. Alors qu'aujourd'hui, parfois, quand nous regardons dans notre société, et même parfois dans nos églises évangéliques, l'évangile va être perçu comme quelque chose un petit peu de contraignant. On va se dire, ah, faut pas faire ci, faut pas faire ça, il y a des règles, il y a des machins, il y a des ceci, il y a des cela. Et finalement, nous arrivons à vivre l'évangile, ou parfois à percevoir ou à dire l'évangile comme étant quelque chose d'un peu contraignant, alors qu'en réalité, l'évangile n'est pas contraignant. L'évangile nous libère, il nous libère du péché, il nous libère des règles. L'apôtre Paul dira, tu es libre de faire tout ce que tu veux, tu es même libre de pécher. Alors bien sûr, si tu pêches tout le temps, c'est que tu n'as rien compris à l'évangile. S'il y a quelque chose que tu n'as pas capté, il y a quelque chose qui ne va pas là, et puis surtout là, au niveau du cœur. Mais je suis libre de faire ce que je veux. L'évangile, le Christ me libère. Il me libère de la loi, il me libère des contraintes, il me libère de tout. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir de contraintes et d'autres choses qui vont guider, qui vont aiguiller ma vie, mais en réalité, je suis libre de tout cela. Et pour les païens aussi, c'était une bonne nouvelle. Donc, dans ce passage, eh bien, c'est d'abord aux forts que l'apôtre Paul s'adresse, c'est à eux qui parlent, eux qui ont compris ce que nous pourrions appeler aujourd'hui le plein évangile. Plein évangile fait souvent référence à ceux qui mettent un accent fort sur les dons de l'esprit et sur la personne de l'esprit, mais en réalité, le plein évangile, eh bien, c'est comme Paul l'entend ici, c'est quelque chose de complet, c'est ceux qui ont compris la liberté qu'offre le message de l'évangile. Un mot maintenant sur les faibles, qu'on peut aussi traduire les infirmes. Alors c'est intéressant parce que qui dit infirme pensera peut-être à quelqu'un qui bien sûr est malade, mais qui dit infirme pensera peut-être à quelqu'un avec une béquille, autrement dit quelqu'un qui a besoin de quelque chose pour avancer, peut-être pour marcher, si par exemple celui-ci a un plâtre ou alors qu'il est boiteux. Les faibles, ce sont ceux qui, justement, n'ont pas cette liberté. Ou plutôt, les personnes chez qui cette liberté n'a pas encore pu pleinement s'épanouir pour X raisons. Alors ici, il s'agit probablement de chrétiens d'origine juive. C'est curieux, n'est-ce pas? On pourrait penser que ce sont plutôt ceux qui ont un arrière-plan juif qui vont comprendre cela, mais en réalité, les païens l'ont plus vite compris, l'ont plus vite accepté et parfois même l'ont trop bien accepté, puisqu'ils ont compris que l'évangile permettait une si grande liberté qu'il y en a qui se sont complètement lâchés. Et c'est pour ça que Paul leur dira, particulièrement aux Corinthiens, hey, « Eh, on ne se lâche pas n'importe comment, hein. On est libre, mais on n'est pas libre de faire quand même n'importe quoi. » Eux, ils l'ont capté. Pour les Juifs, c'était plus difficile. Pourquoi? Pour ce que je disais tout à l'heure, tout simplement à cause de leur arrière-plan. Donc les faibles, c'est ceux qui voulaient être fidèles à la loi de Dieu, aux prescriptions de Moïse. Ce sont ceux, comme je disais tout à l'heure, qui respectaient certains aliments, qui respectaient des jours, des fêtes, des moments donnés dans l'année. Pour eux, c'était très important. Et ils ne comprenaient pas pourquoi les autres n'agissaient pas comme eux. Pourquoi ces chrétiens-là, qui viennent d'origine païenne, ils ne font même pas partie du peuple de Dieu? Ce sont des pièces rapportées, comme parfois on l'a entendu dans certains milieux évangéliques, n'est-ce pas? Des églises qui existent depuis quelques dizaines d'années, voire même plus. Puis quand quelqu'un de nouveau vient dans l'église, hein, je l'ai entendu moi-même, c'est une pièce rapportée. Et donc là, eux aussi se disaient, bien eux, ces pièces rapportées, ils viennent, et puis ils sont libres, ils sont totalement différents de nous, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas comme nous? Pourquoi est-ce qu'ils ne respectent pas la circoncision? Pourquoi est-ce qu'ils mangent du cochon? Hein? Ben oui, le Seigneur nous a libérés, on peut manger du cochon. Ou alors ne pas en manger. Pourquoi est-ce qu'ils respectent toutes ces choses-là? Et puis les faibles, ce sont aussi dans 1 Corinthiens 8 et 10, ce sont ceux qui sont jeunes dans la foi. Alors là, c'est plutôt des chrétiens d'origine païenne, qui sont jeunes dans la foi et dont la conscience aussi, chez certains, était sensible. Et alors, chez les chrétiens d'origine païenne qui s'étaient convertis, eux, leur pierre d'achoppement, ou ce qui était difficile, c'était lorsqu'ils allaient au marché et qu'on achetait de la viande. Parce que cette viande, c'est une viande, comme vous le savez, qui avait été sacrifiée aux idoles. C'est-à-dire que les jours qui avaient précédé, il y avait des cultes qui étaient adressés à des divinités païennes. Et en réalité, l'apôtre Paul dira que derrière ces statues, ce sont des démons qui se trouvent là. Et donc cette viande, ensuite, on ne pouvait pas tout consommer, tout n'était pas brûlé non plus pour le sacrifice. Une grande partie de cette viande se retrouvait sur les étalages publics. Et puis ensuite, il y a des chrétiens qui venaient, qui achetaient cette viande, et puis qui en mangeaient librement, ça ne les dérangeait absolument pas. Et puis d'autres qui avaient un arrière-plan qui était un petit peu compliqué, différent, ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'ils allaient manger de cette viande-là, parce qu'ils pensaient qu'en mangeant cette viande-là, ils allaient se choper des démons. Alors que Paul leur dit, ben, tout ça, vous n'êtes plus tenu à ce genre de croyance. Vous pouvez manger de tout ce qui se vend au marché. Vous êtes libre de toutes ces pensées, de toutes ces croyances, même s'il y a certaines choses qui existent. Alors aujourd'hui, la majorité des églises n'ont plus le même profil que celle de Rome, avec des juifs, des païens. Nous sommes tous issus aujourd'hui, la plupart d'entre nous, enfin, je ne connais pas votre arbre généalogique, que je connais plus ou moins le mien, du côté paternel. Je sais qu'on vient de Suisse allemande. Hein, le premier Mainline est venu en 1700, je ne sais plus combien. Il s'appelait Joseph, il gardait des moutons. Voilà ce que je sais. Donc, nous avons tous un arrière-plan aujourd'hui plus ou moins païen. Donc, un arrière-plan qui est différent de l'arrière-plan juif. Et pourtant, les questions se pose toujours. Et moi qui ai l'occasion de voyager dans des milieux très divers, je peux vous dire que le monde chrétien est loin d'être homogène. Et dans le monde chrétien, vous avez des avis très, très, très différents. Et pourtant, ce qui nous unit, et parfois c'est là où nous oublions de porter ou de garder nos regards, c'est la personne du Christ. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ce chapitre 15 que développe l'apôtre Paul, il insiste beaucoup sur le Christ, et s'il insiste beaucoup sur lui, c'est finalement pour dire que s'il y a bien quelqu'un qui nous unit ou qui peut nous unir, c'est lui. Je pense à mon ami le pasteur Gilles Boucomont, qui est pasteur de l'église réformée à Paris, qui est une église qui sont passés de 10 membres à 700 membres en l'espace de 10 ans, une église avec des gens d'arrière-plan très différents, des homosexuels qui se sont convertis, qui ont été libérés, des chanteuses R&B, des papis, des mamies, des gens qui chantent de l'opéra, des personnes qui font partie de la société, la haute société protestante, hein, donc des gens avec un certain standing, et puis des gens beaucoup plus simples, et puis voilà l'Église que Dieu nous donne, et il va falloir composer les uns avec les autres. L'Église du Christ est bien loin d'être homogène. Vous avez des chrétiens, par exemple, pour qui le fait de boire, eh bien, est quelque chose d'impensable. D'autres chrétiens, le fait de boire, hein, surtout ici en Alsace, mais voilà, ça fait partie de notre tradition. Pour d'autres chrétiens, eh bien, on pourra fumer. D'autres vont dire non, c'est pas possible de fumer. D'autres vont avoir des exigences très précises en ce qui concerne la tenue, et particulièrement en ce qui concerne la tenue des sœurs. Vous avez des églises, je me rappelle d'une église en Haïti que j'avais vue. Eh bien, cette église-là, c'était noté, enfin, on est en Haïti, dans un pays donc différent, c'était noté à l'entrée de l'église que c'était interdit de venir dans cette église pour les femmes avec des jeans. Et donc, si vous avez des jeans, hein, ben, vous ne rentrez pas dans l'église, quoi. Vous vous débrouillez pour avoir une robe, et si possible, une robe décente. Alors nous, on va être offusqués, on va se dire, ben mince, alors, on ne peut pas venir en pantalon à l'église, c'est n'importe quoi. Eh bien voilà, pour eux, eh bien, ils sont faibles. Ils sont faibles à ce niveau-là. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Et si vous regardez bien dans nos milieux chrétiens, Il y a toutes sortes de choses. Il y en a, ça va être sur les questions de maquillage. D'autres, ça va être sur des questions relatives à la nourriture. Pour d'autres, ça va être sur des questions relatives aux prophéties bibliques, par exemple. Il y en a qui vont dire, eh bien, aujourd'hui, l'Église a totalement remplacé Israël. Israël, c'est plus important. D'autres qui vont vous dire, ah ben non, Israël, c'est toujours important. D'autres qui vont vous dire, c'est tellement important que finalement, Israël va être restauré et prendra peut-être même la place de l'Église. D'autres qui vont vous dire, Jésus va revenir, mais avant que Jésus va revenir, il y aura une période de 1000 ans où Satan va être enchaîné. D'autres qui vont vous dire encore, maintenant cette période de 1000 ans, c'est le temps où nous vivons maintenant. La prochaine fois que Jésus ou quand Jésus revient, ce sera la fin du monde. Vous voyez, il y a des avis différents sur certaines questions qui sont là. Alors, j'aimerais quand même préciser que je ne parle pas de choses ici qui sont clairement identifiées dans la Bible comme étant de l'ordre du péché. Quand il s'agit de péché ou de comportement qui ne glorifie pas le Seigneur, l'apôtre Paul pointera le doigt. Et il ne se gêne pas pour le faire dans plusieurs de ses épîtres. Mais quand il s'agit d'autres questions, on voit que l'apôtre Paul, finalement, même si c'est un homme qui parfois est un petit peu rigide, certains diraient même pincé, c'est comme ça qu'ils le perçoivent, est un homme qui a ou conserve une grande souplesse. Et parfois, dans nos milieux chrétiens, nous sommes un petit peu intransigeants. Nous sommes durs sur des questions qui, finalement, sont des questions secondaires. Et nous sommes durs, pourquoi ? Parce que nous avons reçu une éducation bien précise à ce niveau-là, et qu'en même temps que nous avons découvert la foi, que nous avons découvert la grâce, nous avions aussi toutes ces règles qui étaient là. Et ces règles, parfois, il faut se dire la chose suivante. Les règles qu'on a eues quand on était enfant, quand on était jeune, ou quand on était jeune chrétien, c'était des règles parfois qu'on a besoin et qui sont nécessaires pendant un temps. Un petit peu comme un convalescent qui va avoir besoin pendant un certain temps, vous voyez, de ces béquilles qui vont l'aider. Et il y a des chrétiens qui ont besoin de béquilles pendant un certain temps. Ils ont besoin de béquilles dans leur vie spirituelle. Eh bien, celui qui est fort, c'est-à-dire celui qui a passé ce cap-là, eh bien, on verra ce que l'apôtre Paul lui recommande, et il lui recommandera de faire preuve, finalement, d'indulgence. Alors, comment faire? Comment vivre ensemble? Comment non seulement venir comme vous êtes, mais aussi s'accepter comme nous sommes? Parce que, finalement, c'est là la grande difficulté. Arriver à nous accepter les uns les autres tels que nous sommes, avec nos différences. Alors, l'apôtre Paul donne plusieurs pistes relativement concrètes. Il nous en donne trois, et je conclurai avec ces trois pistes. D'abord, la grande pensée qui ressort de notre texte, c'est que Paul invite les forts à prendre en charge les faibles. Ça, c'est vraiment la pensée qui ressort de notre passage. Alors concrètement, comment faire ? Première piste, ne pas chercher son bien propre. Ou alors, ne pas chercher ce qu'on appelle son autosatisfaction. En réfléchissant un petit peu, ce matin, en lisant ce texte, là, en étudiant un petit peu la chose, je me suis dit, mais on vit dans une société très individualiste, n'est-ce pas ? Le christianisme a mis en avant l'individualité de la personne. Le christianisme nous a sortis du collectif pour nous dire qu'il y a l'individu, et en même temps le collectif. Mais cet individu, avec la modernité, a pris un essor, une ampleur phénoménale. Et aujourd'hui, il n'y a plus que l'individu qui compte. La preuve, vous allez dans les maisons, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, il y avait une télé dans la maison, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, il y a 2, 3, 4, 5, 6 télés, enfin il n'y a plus de télé, il y a des ordinateurs, il y a des tablettes, chacun a son machin. Avant, on regardait des films ensemble, maintenant, chacun regarde son machin de son côté. C'est un exemple de cette individualité poussée à l'extrême. Voilà, chacun a son truc. Ce qui compte, c'est mon bien-être, c'est moi. Et on perd des fois de vue l'ensemble. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe très souvent dans notre société. Tout tourne et est fait pour l'individu. Et Paul prend finalement le contre-pied de cette tendance naturelle qui nous habite, qui existait déjà à l'époque. Et il dit, eh bien, pour nous aider, on ne va pas chercher son bien propre, on ne va pas chercher ce qui nous fait plaisir à nous-mêmes. Ce qui fait plaisir, c'est peut-être de boire une bonne bière, de boire un bon verre de vin. Moi, j'aime bien la bière, j'aime bien le vin, avec modération. Hier soir, on était à un mariage, alors c'était bien, il y avait du bon vin, etc. On s'est réjouis. Ce matin, c'est l'eau. On fait un peu le jeûne à ce niveau-là. Mais quand je vais en Afrique, quand je suis avec mes amis africains qui m'invitent, les pasteurs, etc., avec certains, pour eux, il n'y a pas de problème de boire une bière ou un verre de vin. Mais la plupart d'entre eux, avec ceux avec qui je travaille, s'ils savaient que je bois de temps en temps un verre de vin ou une bière, ils ne m'inviteraient plus jamais. Plus jamais, c'est terminé, ils coupent les ponts. C'est pour ça que le message, il sera détruit après. Surtout pas sur Internet. Et pourquoi? Parce que pour eux, ce sont des églises, des missions qui sont nées suite au travail d'évangélisation des Américains, souvent. Et eux, on leur a dit que quand on est chrétien, eh bien, on coupe avec tout ça. Et puis aussi, culturellement, il y a parfois des gens qui boivent beaucoup dans des endroits. Et donc, quand on devient chrétien, on coupe vraiment avec son ancien mode de vie. Et le mieux pour être libéré de l'alcool, libéré de tout ce qui me retenait avant, je coupe totalement avec ça, c'est terminé, et donc on ne boit plus. Et donc pour eux, si moi je bois, je serai pour eux une occasion de chute. À ce niveau-là, le fort ce sera moi, et le faible, eh bien ce sera eux. Sur ce sujet-là, mais sur un autre sujet, peut-être que c'est eux qui seront forts, et moi qui serai faible. Vous me suivez ? Parce que personne n'est fort totalement et personne n'est faible totalement. Il y a certains sujets dans notre vie où nous sommes forts et d'autres où nous sommes faibles et où nous avons à apprendre plutôt à avancer les uns les autres. Et donc, si je vois que je suis une occasion de chute pour eux, au lieu de dire « Ah ben moi, je suis libre, hein, mince alors, le Christ m'a libéré, bon, je m'en fous, je vais boire une bonne bière, je vais boire un verre de vin, et puis tant pis si je les choque. » L'apôtre Paul dit « Si tu fais ça, eh bien, tu pêches, mon frère. Tu deviens une occasion de chute. Et tu risques de les faire chuter dans leur foi. Et puis, en plus, il y a la relation qui, pour un truc vraiment bête, une histoire de boire ou de ne pas boire, va être coupée. Et ça peut être vrai dans d'autres domaines. Donc, ce que Paul est en train de dire, eh bien, tu ne cherches pas ton propre plaisir. Hein, tu ne bois pas ou tu ne fais pas ci pendant un certain temps. Non pas qu'il faille le faire en cachette, mais puisque c'est une occasion de chute et puisque ça dérange des personnes qui sont plus faibles, tu veilleras et tu fais attention à cela. Donc, par conséquent, je vais en tenir compte dans mon comportement. Et ce qui est intéressant, c'est que l'argument que Paul prend ici pour justifier cela, c'est un argument qui est fort. Il prend le Christ comme modèle, au verset 3. Vous l'avez lu tout à l'heure ? Jésus est pris comme modèle. Jésus s'est fait faible avec ceux qui l'entouraient. On ne mesure pas toujours ça. S'il y a bien quelqu'un qui était fort, qui était libre et qui n'avait aucun problème, c'était bien le Christ. Mais puisque nous sommes faibles, et puisque les Juifs étaient faibles dans bien des domaines, il s'est fait faible avec eux, jusqu'à subir des outrages à cause de sa faiblesse, parce qu'il s'est mis à leur niveau. C'est fort. Il n'avait pas besoin d'agir comme ça, mais par amour pour les autres, eh bien, il devient faible et sa faiblesse va entraîner des railleries, des moqueries et tout ce que vous voulez de la part des autres. Et Jésus ne va pas réagir justement pour ne pas être pour eux une occasion de chute. Il l'était déjà assez de par son message et de par sa personne. Donc ce que Paul nous dit ici, il nous encourage, à l'exemple du Christ, à nous dépréoccuper de nous-mêmes pour nous occuper des autres. Par conséquent, celui qui est fort dans tel ou tel domaine est invité à prendre exemple sur le Christ. Alors c'est vrai pour l'alcool, mais ça peut être vrai pour une tenue vestimentaire, ça peut être vrai pour ceci ou pour cela. Vous avez des églises où il faut venir saper comme des nababs, c'est le cas par exemple dans certains pays où je me rends. Hein, si je viens que je n'ai pas la veste, que je n'ai pas la cravate, ça ne va pas passer. Je risque d'être une occasion de chute pour certains. Et il y en a qui ne vont pas du tout m'écouter parce que je n'aurai pas la cravate ou parce que je n'aurai pas un joli costume. Et puis dans d'autres endroits, ça sera différent, il y aura une liberté. Donc si moi je suis libre à l'égard de ces choses-là et que ça ne me dérange pas, moi ça ne me dérange pas du tout hein, d'avoir un costume-cravate, au contraire j'aime bien, donc bah, du coup voilà, je vais le mettre. Mais si dans d'autres endroits, moi j'ai pris des frères avec moi où leur style c'est pas du tout costume-cravate, eh bien le dimanche je leur ai dit, écoute, mets une cravate. Ils m'ont dit, ah ben moi, je ne vais pas mettre de cravate, je ne mets jamais de cravate, c'est n'importe quoi. J'ai dit, mets une cravate, mets une cravate. Il a mis la cravate. Quand il a prêché, on l'a écouté, tout le monde est venu l'encourager, féliciter. Ah ben c'est fantastique, grâce à la cravate. Hein? Ah ben mon vieux, s'il faut que ça pour qu'on t'écoute et pour que les gens soient attentifs, eh bien, mets ta cravate. Bien entendu, ça va jusqu'à un certain niveau. Alors il y a quelque chose de beau aussi quand je ne cherche pas mon bien propre, dit Paul, que je me dépréoccupe de mes soucis ou de ma grandeur ou de moi-même. Cela laisse la place à deux petites choses. D'une part, cela va laisser la place à l'espérance. Vous avez vu, il y a l'espérance qui apparaît dans notre chapitre, et on ne voit pas tellement bien ce lien de l'espérance, mais l'espérance ici est reliée avec le souci des autres. Et finalement, ce que l'apôtre Paul dit, ce que l'apôtre Paul dit, c'est que, tu veux trouver l'espérance, va t'occuper de tes frères. Et en t'occupant de tes frères, en te dépréoccupant de toi-même, de tes soucis, de ce à quoi toi tu aurais droit normalement, tu es peut-être dans ton bon droit effectivement, en t'occupant des autres, tu vas trouver l'espérance. L'espérance dans la situation peut-être ou autre, ou quelque chose qui va changer. Et puis d'autre part, il est aussi question d'une autre chose ici, il est question de la patience. Et littéralement, le terme qui est utilisé est fort puisqu'il évoque non pas la patience, mais il évoque en réalité la possibilité de porter les difficultés. C'est intéressant ça. La possibilité de porter les difficultés. Ça veut dire que Dieu, de manière surnaturelle, nous donne la force pour pouvoir porter les difficultés. Nos propres difficultés, mais aussi les difficultés des autres, pour pouvoir les accompagner et pour pouvoir ainsi vivre un réconfort que moi-même je reçois, que l'autre reçoit et qui va pouvoir être échangé. Deuxième point, qui sera très court, l'apôtre Paul dit au verset 6, « mettez-vous d'accord ». Et certaines traductions sont intéressantes parce que Paul utilise ici un drôle d'argument. Il dit « chanter ensemble ». Enfin, il ne dit pas « chanter ensemble », mais il dit « chanter ensemble », c'est-à-dire juifs et non-juifs, à la gloire de Dieu. Alors c'est très intéressant parce que le chant ici n'est pas vu comme le moyen ou comme la preuve de l'accord des chrétiens entre eux. Et parfois c'est ainsi qu'on va se dire, mince alors, si je ne suis pas d'accord avec tel frère, avec telle sœur, je ne vais pas pouvoir chanter avec lui ou je ne vais pas pouvoir chanter avec elle. Alors que Paul, il n'utilise pas ça comme argument. Ce qu'il utilise ici comme argument, c'est qu'il utilise le chant plutôt comme un moyen pour y parvenir. C'est contre-logique. Ça va un petit peu à l'encontre de notre logique. Finalement, ce qu'il est en train de leur dire ici, vous êtes divisés sur ceci ou cela, chantez ensemble. T'es pas d'accord avec ton frère sur ça? Tu penses qu'il faut avoir les jupes jusqu'ici? L'autre, il pense qu'il faut avoir les jupes jusqu'ici? Jusqu'ici, ça sera différent, bien sûr. C'est normal. Là, c'est plus la liberté, c'est la très grande liberté. Mais bon, en tout cas, tu penses si, tu es pas d'accord avec lui ou avec elle. Chanter ensemble. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il dit un truc comme ça? Chanter ensemble pour la gloire de Dieu. Je pense que Paul dit cela, chanter ensemble pour la gloire de Dieu, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand on chante à qui? On chante à Dieu. On chante pour la gloire de Dieu. Et quand on chante à Dieu, on se rapproche de Dieu. C'est comme dans la prière, on se rapproche de Dieu. Et quand on se rapproche de Dieu, on commence à se dépréoccuper de soi-même. Et puis on commence un petit peu plus à s'occuper peut-être des autres, ou à penser aux autres, ou peut-être plus à prier pour eux. Et finalement, on voit que quelque chose qui était important pour nous n'est peut-être plus finalement si important. Et puis mon frère ou ma sœur à côté, plutôt ma sœur, qui a une jupe, parce qu'un frère, ça serait un petit peu plus embêtant, quoi. Bien qu'aujourd'hui, pour certains, tout est permis. Et finalement, on se dira, que ce soit plus court ou plus long, c'est pas si grave que ça. On chante ensemble pour la gloire de Dieu. Et puis le dernier argument que l'apôtre Paul utilise, et je termine avec cela, c'est vraiment l'argument massu dans toute sa réflexion, aussi bien dans les chapitres 14 que 15, argument massu aussi qu'on retrouve dans 1 Corinthiens, chapitre 8 à 10. Il enfonce le clou et il dit simplement « Accueillez-vous les uns les autres ». Et une fois encore, il va prendre l'exemple de Dieu ou l'exemple du Christ. Il dit, Dieu vous a accueilli. Vous étiez des juifs avec vos règles, vous étiez coincés à cause de votre loi, vous étiez perdus. Dieu vous a fait grâce, il vous a donné l'évangile, vous êtes sauvés. Les païens, vous étiez perdus, vous n'aviez pas droit aux promesses. La seule chose à laquelle vous aviez droit, c'était l'enfer.
Eh bien maintenant, non seulement Dieu vous donne la vie éternelle, il vous sauve, il vous intègre dans le peuple de Dieu, mais Dieu maintenant aussi, grâce au Christ, change votre vie, vous libère de votre passé, fait que vous, qui n'étiez pas du peuple de Dieu, c'est-à-dire nous, puisque nous sommes issus des païens, eh bien maintenant nous sommes et nous faisons partie, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, du peuple de Dieu et nous pouvons nous réjouir pour cela. Et ça, c'est l'argument qui dit, le Christ vous a accueilli, le Christ vous a pardonné, le Christ a tout fait pour vous, par conséquent, vous aussi, le moins que vous puissiez faire, alors c'est des fois difficile, voire même très difficile, eh bien, c'est de vous accueillir les uns les autres. Et pour les chrétiens de Rome, c'était important, puisqu'il y avait des gens qui venaient d'une communauté judéenne, qui étaient des juifs, d'autres qui venaient du monde païen. Pour mon copain à Paris, eh bien, qui est pasteur, c'est aussi difficile, parce qu'il y a des gens qui viennent de partout, mais en se concentrant sur le Christ, en chantant pour la gloire de Dieu, les gens, ils arrivent à se rapprocher les uns les autres. Nos églises aujourd'hui sont très variées, même notre église est très variée, nous avons tous des arrière-plans différents, certains viennent de l'arrière-plan BN, d'autres viennent d'autres églises, nous avons tous reçu des éducations différentes dans nos familles, certaines familles sont plus rigides, hein, et bien c'est comme ça, d'autres familles sont plus cool, d'autres familles sont plus ceci, sont plus cela. Et Paul dit, mais on ne va pas imposer ça aux autres. On ne va pas critiquer les autres à cause de ça. Il dit, accueillez-vous simplement les uns les autres. Acceptez-vous avec vos différences. Essayez d'apprendre à laisser tomber les choses qui sont secondaires et concentrez-vous sur l'essentiel. Et parfois, nous nous faisons du mal les uns les autres, nous nous blessons bêtement. Nous pensons avoir raison sur tel point, nous sommes sûrs de nos propos, nous pensons que ce que nous croyons finalement est dans la Bible, alors que c'est plus dans une tradition et que le Seigneur nous permet de vivre une certaine liberté à ce niveau-là. Et puis finalement, dans nos actes, dans nos paroles, nous allons devenir intransigeants sur des choses qui sont secondaires. Alors que le Seigneur et que Paul nous dit ici, eh bien, accueillez-vous les uns les autres tels que vous êtes. Quand il est question du péché, c'est différent. Mais même quand il est question du péché chez un frère, chez une sœur, il y aura manière de lui dire, manière de lui expliquer la chose, manière de le reprendre, de la reprendre. Il y aura toute une procédure qui nous sera proposée dans l'Écriture, qui est toujours une procédure de grâce. Et puis quand il s'agit de points secondaires, qui ne font absolument pas partie de péché ou de tentation, qui sont simplement, qui font partie de la liberté ou de la non-liberté que nous avons en Christ, ou que certains ont, que d'autres n'ont pas, il y a la possibilité, dit Paul, de s'accueillir, d'être les uns les autres. Alors je vous invite à vous lever ce matin, et j'aimerais que nous puissions avoir juste un petit temps où nous voulons nous placer devant le Seigneur. Et je vous invite ce matin à lui dire ou à lui poser juste une question. Vous allez lui poser cette question dans votre cœur et vous allez lui demander, Seigneur, est-ce qu'il y a un domaine dans ma vie où je suis dur, je suis intransigeant? Je reste peut-être sur mon droit, je suis fort à ce niveau-là et je veux que ce soit comme ça pour les autres. Peut-être dans ma famille, dans mon couple, dans l'église ou dans une autre église avec un autre frère, une sœur ou avec une dénomination. Parfois on critique aussi très vite les autres dénominations. Hein. Eh bien, simplement on veut se placer devant le Seigneur et lui demander que lui puisse aussi nous parler dans notre cœur et nous aider à avancer pour que forts que nous sommes, nous puissions nous mettre au service, nous préoccuper de nous-mêmes et nous mettre au service de l'autre. Et Paul faisait partie des forts, et c'est pour ça qu'il se permet de dire de telles choses. Et pourtant, il fait partie des forts, mais il dit, non, si ça gêne quelqu'un, moi, je vais faire comme ça. Laissons simplement le Seigneur nous parler maintenant, et quelques instants. Eh bien, Seigneur, tu as entendu notre question, notre demande, notre réflexion. Nous voulons simplement te l'apporter ce matin. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, parce que nous agissons parfois mal. Nous agissons mal parce que nous pensons avoir raison sur tel point. Et ce faisant, nous perdons de vue l'exemple que tu nous donnes, Seigneur Jésus. Toi, tu t'es abaissé, tu t'es humilié, et nous te demandons, Seigneur, que tu crées en nous cette dépréoccupation de nous-mêmes pour mieux accueillir l'autre que tu mets, que tu places devant nous. Seigneur, que ta grâce nous accompagne en ce jour, que notre Église, que ton Église ici puisse grandir, et puis que tu nous aides, là où nous sommes faibles, à avancer. Et puis si nous n'arrivons pas, nous voulons te remercier pour les béquilles que tu nous donnes. Et puis si nous sommes forts sur tel point, eh bien donne-nous d'accueillir notre frère, notre sœur qui ne l'est pas, de ne pas la juger, de ne pas la critiquer, de ne pas le critiquer, de ne pas le juger non plus, mais simplement l'accueillir là où il en est et d'apprendre à nous aimer les uns les autres. Seigneur, c'est tellement difficile et nous avons vraiment besoin de ta grâce à ce niveau-là. Nous avons besoin que tu rendes notre cœur plus souple, plus malléable, plus simple, plus humble. Amen. Amen.